10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Bonjour à tous. Notre invitée ce matin, Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Immigration, communautarisme, deux mots au cœur de l'actualité avec l'interview sans filtre d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles. La gauche s'étrangle, l'extrême droite crie à la com, la droite attend les actes. Le chef de l'État a-t-il choisi la bonne voie sur ces sujets? Et le choix de Thierry Breton pour la Commission européenne sera-t-il le bon? Sitôt proposé, sitôt soupçonné de conflit d'intérêts, conflit, autre mot-clé de cet automne. Avec la réforme des retraites, face à la grève qui s'annonce, le président semble prêt à des concessions pour les régimes spéciaux. Alors pour l'acte 2, est-ce la rue qui gouverne? Pour vous interroger, Cécile Cornudet des Échos et Johan Usaï de CNews. Bonjour à vous à tous les deux.
Bonjour à tous.
Amélie de Montchalin, c'est Johan Usaï qui vous pose la première question.
Bonjour Amélie de Montchalin. Emmanuel Macron s'est confié cette semaine à Valeurs Actuelles, une interview qui fait des vagues, y compris à l'étranger. Que dites-vous à la Bulgarie, membre de l'Union européenne, qui proteste après les propos du président sur les filières bulgares clandestines et qui convoque demain l'ambassadrice française à Sofia?
Alors, sur le sujet migratoire, déjà, je pense que c'est toujours important d'en parler avec des faits et d'en parler à tout le monde. Donc ça, c'est pour le cadre dans lequel on se trouve. Sur le sujet de la Bulgarie, au fond, ce que dit le président, c'est qu'il n'a rien contre les citoyens bulgares, rien contre le gouvernement bulgare. Maintenant, il faut qu'on reconnaisse que sur notre continent européen, au sein même de l'Union européenne, on a des passeurs, on a des filières, on a des trafiquants humains, au fond, qui font beaucoup d'argent, qui génèrent beaucoup de profits pour eux-mêmes en exploitant la misère et en organisant, au fond, le transport, le trafic de personnes. Et on a vu les drames d'ailleurs que ça provoquait d'ailleurs au Royaume-Uni il y a encore quelques jours.
Particulièrement en Bulgarie.
Et alors, ce qui est certain, la Bulgarie est aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'avec Frontex, c'est l'agence des gardes frontières européens, on veut pouvoir aider les pays à mieux protéger ses frontières, notamment pour que les passeurs qui viennent de l'autre côté de la frontière puissent s'arrêter. L'autre point, c'est qu'on a un certain nombre de pays aujourd'hui en Europe pour lesquels la Commission européenne, les États, voilà, soutiennent ces pays pour qu'on puisse arrêter la corruption, les mafias et tous les systèmes de passeurs et de trafiquants qui peuvent exister. Donc le point, effectivement, il va y avoir des échanges et qu'on clarifie bien, le problème, ce n'est pas le gouvernement bulgare, ce n'est même pas non plus les citoyens. C'est nous assurer qu'au sein de notre espace européen, c'est toute la discussion sur Schengen, sur le droit d'asile européen, nous assurer que sur notre continent, nous ayons des règles claires qui soient respectées et que nous ayons les moyens, au fond, d'arrêter ceux qui trafiquent et de faire respecter ce qui nous semble être des règles communes à nous appliquer ensemble. C'est un combat européen essentiel, parce que c'est un combat de confiance et c'est un combat d'efficacité. Si on n'est pas capable, pour tous les citoyens du continent européen, d'expliquer comment on protège le droit d'asile, comment on s'organise, comment on s'occupe de protéger nos frontières, pas pour devenir une Europe forteresse, mais pour devenir une Europe qui sait s'organiser, qui rentre, qui sort. Et surtout, faire la guerre, au fond, à tous ceux qui exploitent la misère humaine et qui en retirent beaucoup d'argent.
Vous espérez que cet incident diplomatique sera bientôt clos, donc?
Oui, je l'espère et je pense qu'il le sera. On a bien compris qu'on ne parlait pas là ni du travail détaché, ni de la liberté des travailleurs. On parle vraiment d'un sujet qui est un sujet qui est très lié, vous savez, à toute cette économie grise qui prospère parce que nous n'avons pas les capacités régaliennes au niveau européen de manière suffisante pour, au fond, protéger les citoyens. Quand on parle de défense européenne, quand on parle d'Europol, le système européen de coordination des polices, quand on parle de notre coordination du système judiciaire, quand on parle d'un parquet européen, au fond, on est en train de créer, au niveau européen, la coordination nécessaire pour, en gros, faire la guerre à ceux qui trafiquent et qui exploitent ces failles.
Il empêche, il y a des expressions du président qui peuvent heurter. Et en France, c'est la même chose. Sur cette interview, il dénonce les droits de l'homme, il se dit obsédé par le sujet de l'immigration. En fait, de tous ces sujets, ça fait un mois que l'exécutif ne parle que de ça. Est-ce que dans l'avenir, il ne faut pas un petit peu lever le pied? Est-ce que l'attaque de Bayonne n'a pas rappelé que le climat était tellement fragile que vous aviez peut-être un peu surdosé toutes ces questions identitaires?
Alors, il y a plusieurs sujets dans le sujet. Ce qui est sûr, c'est que sur l'immigration, moi, je refuse qu'on cède soit au fantasme, soit aux peurs.
Il faut en parler.
Et il faut en parler pour apporter des faits. Vous savez, beaucoup, beaucoup d'hommes politiques depuis des décennies ont brandi des chiffres qui ne voulaient rien dire pour faire peur aux Français. Ce qu'a voulu faire le président avec le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, c'est d'abord de montrer que ce n'était pas qu'un sujet de chiffres, ce n'était pas un sujet du ministère de l'Intérieur, c'était un sujet qui était transversal. Et au fond, qui pose trois questions. Un, comment on fait respecter le droit d'asile? C'est l'honneur de la France, c'est dans notre Constitution. L'identité française, c'est d'avoir pu accueillir, protéger ceux qui fuyaient la guerre et la persécution.
Mais globalement, que sur l'immigration, la laïcité, le communautarisme soit le sujet numéro un gouvernement depuis un mois et demi, est-ce que, en termes d'équilibre des sujets, des problématiques des Français, c'est bien
dosé ? On a aussi beaucoup parlé, je pense qu'on y reviendra, retraite, on a aussi beaucoup parlé droit du travail. Donc, mais sur le sujet dont vous parlez, il faut séparer les choses. Il y a effectivement déjà comment on protège le droit d'asile. Effectivement. Comment on accueille dignement ceux qui fuient les persécutions et comment on empêche ceux qui dévoient le droit, qui viennent de pays sûrs, par justement des trafiquants et des passeurs dont je vous ai parlé, qui font venir des gens de pays où en fait ils ne devraient pas avoir droit à l'asile.
Géorgie, Albanie.
Par exemple, de pays qui sont sur le continent européen avec lesquels on travaille tout à fait sereinement tous les jours. Deuxième enjeu, c'est comment on a une politique d'attractivité, ni plus ni moins que les autres pays européens. Mais il y a des gens qu'on veut faire venir chez nous. Il y a des métiers, il y a des compétences qu'on veut attirer. Comment on s'organise ? Et puis un troisième sujet, c'est l'intégration. Et l'intégration, c'est par le travail, par le logement, par l'éducation. Comment on s'assure que ceux qui sont chez nous peuvent s'intégrer ? Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est le communautarisme. C'est à la fois rien à voir.
On y reviendra.
Et la laïcité. Et je pense que c'est toujours important. Pourquoi le président se parle de ces sujets ? Parce que ce sont des sujets sur lesquels, depuis des années, soit vous en faites des marottes, et vous êtes à l'extrême droite,
là, on n'est pas
et
dans
vous
la
en
marotte.
Faites l'obsession. Soit vous en faites un tabou, et donc vous n'en parlez jamais. Mais les Français, ils veulent quoi ? Ils veulent qu'on ait une stratégie, qu'on leur explique ce qu'on fait. Pas leur dire que c'est un problème, mais ils veulent savoir comment, face à une situation, on apporte des résultats, et comment surtout on est organisé, et qu'on leur dise, au fond, ce qu'on fait.
Donc, Amélie de Montchalin, justement, sur la stratégie, Emmanuel Macron fixe un objectif très clair et très ferme. Dans Valeurs Actuelles, sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là. Ça fait partie des objectifs du gouvernement, 100%. Alors, on le sait, il y a souvent l'obstacle des laissez-passer consulaires pour les reconduites à la frontière. Est-ce que vous avez avancé sur ces sujets-là ?
Alors, on a beaucoup avancé parce que depuis la loi, vous avez dit la loi Collomb, la loi de 2018, on a augmenté de 44% sur les 9 premiers mois de l'année 2019. Par rapport aux 9 premiers mois 2018, on a augmenté de 44% le nombre de laissez-passer consulaires. Juste peut-être
ça fait combien de nombre de laissez-passer consulaires qui sont
un peu moins de 3000. Qu'est-ce que ça veut dire, un laissez-passer consulaire ? Ce sont des procédures diplomatiques pour qu'une personne qui est en situation de devoir quitter le territoire ait des papiers pour pouvoir rejoindre son pays. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que pendant des années, les pays d'origine nous disaient « Pourquoi je devrais reconnaître un citoyen si vous me ramenez quelqu'un et je n'ai pas les moyens sur place ?» de lui apporter ni les moyens de travailler, ni les moyens de se former. Et donc notre politique, c'est du donnant-donnant. D'un côté, on travaille beaucoup plus en termes de coopération, de développement. Vous savez qu'on va augmenter notre aide publique au développement pour l'amener à 0,55% du PIB. C'est un effort que la France n'a jamais fait. Mais on dit que cet effort-là pour aller travailler, dans certains pays, c'est les systèmes de santé, dans d'autres pays, c'est les systèmes d'éducation, dans d'autres pays, c'est les systèmes d'état civil. Bref, on accompagne les pays sur leurs besoins. Et de l'autre côté, du coup, quand il y a des personnes qui doivent retourner dans ces pays, elles peuvent y retourner.
C'est une conditionnalité.
C'est pas la conditionnalité, mais vous imaginez bien que pour ces pays, ils n'ont aucune envie de voir leur jeunesse partir. C'est pas dans leur intérêt de voir leurs forces vives partir sans papier de manière illégale en France. On a créé, par exemple, un système qui s'appelle Passeport Talent. Passeport Talent, c'est quelque chose qui permet de la mobilité sur des durées déterminées et qui fait que les gens viennent se former ou travailler en France et repartent apporter au fond leurs compétences dans leur pays.
Dans leur pays. Amélie de Montchalin, les annonces immigration après le débat, on les aura quand ? Cette semaine, mercredi ?
Mercredi, on a un conseil interministériel qui va justement permettre sur tout ce qui a été au fond le cœur des débats à la fois à l'Assemblée nationale
on saura
et au Sénat.
Mercredi.
Il y aura un certain nombre, on l'a vu, les oppositions, la majorité ont fait des propositions. Donc le Premier ministre, avec les ministres concernés, pourra dire au fond dans les suggestions qui lui ont été faites, dans les propositions qui lui ont été faites, ce qu'il retient et qui nous permettent, là, bien, de revenir au cœur d'une stratégie, d'expliquer ce qu'on veut faire, protéger le droit d'asile, avoir une attractivité ni plus ni moins que des autres pays européens, mais qu'il y ait des gens, si on veut qu'ils viennent, qu'ils puissent venir, et d'avoir un effort accru sur l'intégration.
Amélie de Montchalin, dans cette interview du président dans Valeurs Actuelles, il est aussi beaucoup question de communautarisme, du voile. Ce matin, dans le journal du dimanche, François Baroin suggère au président de créer une commission pour réfléchir à potentiellement une extension du cadre de l'interdiction de la neutralité religieuse dans les sorties scolaires qui a beaucoup fait débat ces dernières semaines, aussi dans les piscines, les équipements sportifs. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on retravaille sur ces questions pour accroître les espaces où il faut une neutralité religieuse ?
Là, je vais vous dire un peu personnellement ce que j'en pense. Moi, je suis une élue de banlieue, 20 km au sud de Paris, Massy, Palaiseau, Chilly-Mazarin, des communes qui vivent au fond une mini-France. Vous avez des territoires très ruraux dans cette circonscription,
très urbains,
vous avez ce qu'on appelle des quartiers. Bon. C'est une France qui est diverse et qui représente, au fond, à la fois les défis et les opportunités de notre pays d'aujourd'hui. Sur ces questions de communautarisme et de laïcité, moi, je préfère qu'on parle du terrain.
Pas Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ?
Concrètement, on a aujourd'hui une loi, on ne l'a pas qu'aujourd'hui, on l'a depuis plus de 100 ans, qui est la loi de 1905. Elle nous dit quelque chose qui est à la fois un trésor et qui est un socle. On doit, dans notre pays, avoir le droit de croire et de ne pas croire. La société n'est pas laïque, mais l'État doit être neutre, absolument neutre. Et donc ça veut dire que quand on est fonctionnaire, on a le devoir de neutralité. Donc on ne met pas de voile, on ne met pas de croix, on ne met pas de kippa, on est neutre. Sur toutes ces questions-là, peut-être qu'il faut faire des réflexions avec les maires, avec, au fond, les acteurs de terrain. Mais je pense que ce serait dangereux de nous lancer dans des grandes guerres théoriques où on parlerait, vous voyez, dans les salons de choses qui ne sont pas applicables. Moi, vous avez la question du voile. Pourquoi c'est autant hystérisé ? Parce que d'un côté, il y a ceux qui en font un argument politique.
Et Jean-Michel Blanquer ?
Non, je vous parle de ceux qui poussent des femmes à mettre, voilà, et qui vont apporter ce sujet-là pour expliquer que ce serait un droit fondamental, etc. C'est un droit individuel, mais ce n'est pas un argument politique. Ensuite, il faut s'assurer que les femmes ne sont pas contraintes à mettre
le voile. Vous savez très bien que c'est très difficile de faire la frontière entre eux. Est-ce qu'elle est contrainte ?
Mais
est-ce que
la frontière, c'est qu'en France, la République doit absolument protéger toutes les femmes qui voudraient faire un autre choix.
Elle le fait assez aujourd'hui ?
Comme Alain Schiappa s'occupe de l'éducation des femmes, s'occupe justement de donner aux femmes une voix, leur donner la liberté de faire des choix individuels. C'est là où moi j'ai envie de me battre. Comment dans notre pays, on s'assure que dans tous les quartiers de France, une femme qui décide de mettre un voile est protégée parce qu'elle le met, mais une femme qui décide de ne pas en mettre est aussi protégée parce qu'elle a fait un choix individuel. Ça, c'est le terrain et c'est la réalité. C'est beaucoup plus intéressant que de se lancer dans des grands débats théoriques. Et je pense que quand on part du terrain, on a sur ces questions-là beaucoup de choses, à mon avis, pertinentes et qui font sens et qui, pour les personnes en question, voient bien qu'on ne les stigmatise pas, mais qu'on part de leur individualité et au fond des dérives potentielles. Mais ce n'est souvent pas une question individuelle, c'est une question collective. Et je préfère qu'on part de là.
On marque une pause, Amélie de Montchalin. On se retrouve dans un instant pour parler d'Europe.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Amélie de Montchalin est notre invitée ce matin. Cécile Cornudet vous interroge sur Thierry Breton.
Oui, après le fiasco Sylvie Goulard, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, Thierry Breton est nouveau candidat d'Emmanuel Macron pour la Commission européenne. Lui aussi va être soumis aux questions des députés européens. Et déjà, la gauche européenne pointe le risque de conflit d'intérêts. Je rappelle qu'il était jusqu'à jeudi PDG du groupe informatique Atos. Alors, il s'est engagé à céder ses actions s'il était nommé commissaire européen. Mais est-ce que vous êtes certaine que cette fois, ça passera ? Et je rappelle qu'un mois avant l'audition de Sylvie Goulard, vous étiez certaine que ça passerait ?
Alors, sur cette question, et pour l'évacuer, je pense, assez vite, Thierry Breton a fait des choix très clairs et, on peut dire, même radicaux pour recréer la confiance nécessaire avec le Parlement européen qui, on le voit, doit être rebâti, pas juste parce qu'on a le candidat français, mais parce qu'on a trois commissaires qui ont été sortis du processus, le roumain, hongrois et donc le candidat français. Il a fait des choix radicaux, il a expliqué qu'effectivement qu'il allait vendre ses actions, mais surtout, il a, samedi, ça c'est passé un peu inaperçu, annoncé qu'il avait renoncé
à tous ses mandats,
y compris non exécutif, avant même d'être désigné. Ça veut dire que très clairement, il se met dans une position où aujourd'hui, il n'a plus d'intérêt, il n'a plus de lien d'autorité ou de lien avec la compagnie et l'entreprise qu'il dirigeait. Ce qui est important pour moi, c'est au fond, on mélange un peu deux choses. D'un côté, on a besoin de compétences au niveau européen. Le portefeuille qu'elle tient, c'est un portefeuille essentiel. C'est le portefeuille, au fond, de la souveraineté. C'est comment, face à la Chine, face aux États-Unis, on peut créer des emplois, on peut définir nos règles, on peut construire une défense européenne. On peut, par exemple, sur les données personnelles des Français, nous assurer que c'est des entreprises européennes qui s'occupent des données des Européens. Ça paraît simple à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire parce qu'on sait les influences extérieures. On veut pouvoir, donc, que ce soit quelqu'un de compétent, qui connaît ces sujets. Ensuite, il n'a pas le portefeuille de la concurrence. Il ne va pas arbitrer toute la journée entre telle entreprise ou telle autre. Son rôle à lui, c'est de faire grandir toutes les entreprises. Et donc, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas... C'est Margaret Vestager qui est dans cette position-là. Et
elle, qui n'a pas de lien. Étant donné quand même l'étendue de son portefeuille, parce qu'on rappelle quand même qu'il va devoir traiter de l'espace, du numérique, de la défense, de la culture, du marché intérieur, il va quand même
pas
devoir...
Pas de la culture, de l'audiovisuel. Il y a une commissaire à la culture, il s'occupe des enjeux...
Mais sur tous ces sujets-là, il va quand même être obligé de se déporter un certain nombre de fois. Est-ce que pour vous, revoir l'étendue du portefeuille n'est pas un sujet, ou est-ce que vous avez quand même des inquiétudes à ce niveau-là ?
Les règles de déport que vous citez, ce sont des règles très précises. C'est au cas où il est, lui, à trancher sur des situations très spécifiques qui concerneraient les entreprises où il aurait travaillé, alors ce n'est pas lui qui prendrait la décision. Mais en fait, si vous regardez le contenu de son activité, ces situations sont très peu nombreuses. Si vous avez des appels à projets, par exemple pour créer, je sais pas, un système européen de gestion des données personnelles, et que l'entreprise qui dirigeait veut postuler, ben, c'est pas lui qui choisit, vous avez des comités d'experts indépendants qui allouent les fonds européens. Mais il peut très bien dire qu'il se déporte. Mais le déport dont on parle, c'est pas de dire « il ne s'occupera de rien de s'il connaît ». Vous imaginez, sinon ça veut dire que quand on a des gens compétents, on s'occupe de faire en sorte qu'ils ne s'occupent pas de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils connaissent. C'est complètement lunaire. Donc, la question du conflit d'intérêts, il y a les intérêts financiers, il a vendu ses actions, il y a des intérêts de gouvernance, il a quitté ses fonctions, même non exécutives. Et ensuite, ce qui compte, c'est qu'il n'est pas dans une position où il aura à arbitrer entre les entreprises. Il ne s'occupe pas de la concurrence.
Donc, Amélie de Montchalin, vous dites aux Européens, vous pouvez valider sa candidature, ça roulera parfaitement bien. Est-ce que, sur la mise en œuvre de la Commission, vous êtes certaine qu'elle pourra être mise en place le 1er décembre, alors, comme il était prévu à la base?
Moi, je n'ai pas de certitude, parce qu'on sort quand même d'une crise politique européenne, puisque entre le Conseil, la Commission et le Parlement, on ne peut pas dire que la confiance soit là. On est en train de la rebâtir. C'est pour ça que c'est très important que les candidats qui se présentent soient dans la clarté, voire même dans une forme de radicalité. C'est ce qu'a fait Thierry Breton dans ses annonces des derniers jours. Ensuite, effectivement, cette confiance, elle est essentielle parce qu'elle n'est pas nécessaire juste pour nommer des commissaires. Elle est essentielle aussi pour qu'on puisse travailler, qu'on puisse avoir des résultats. Si la Commission, Mme Ursula von der Leyen, présente des choses et que le Parlement continue à être
donc on n'y est pas encore à la confiance. Vous avez un doute sur le 1er décembre?
1er décembre, on n'y est pas encore.
Je ne sais pas si ça peut être mis en œuvre le 1er décembre. Il faut que les trois candidats, il faut notamment que la Roumanie présente son candidat. Donc je n'ai pas de certitude.
On parle de février même, désormais.
Ce que je sais, moi, c'est qu'il faut qu'on soit tous très conscients que, bien au-delà du débat de personne, il y va de notre capacité à apporter des résultats aux citoyens européens. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les élections européennes, les citoyens européens? Ils ont été plus votés que d'habitude? Et ils ont donné un signal clair, au fond, qu'ils voulaient d'une Europe plus forte. Ils ont voté pour les Verts, ils veulent d'une Europe plus forte pour combattre le changement climatique, et ils ont voté pour les progressistes, dans des proportions nouvelles, parce qu'ils veulent une Europe plus souveraine. Si on n'est pas capable de mettre ça sur la table concrètement, mais l'Europe se diluera d'elle-même. Donc, cette confiance, on la rebâtit comment? Avec des personnes de qualité, des personnes de compétences. On la rebâtit en ayant un dialogue de fond qui revient au contenu du projet, pas juste aux bisbilles politiques. Et on s'assure effectivement que la mise en œuvre puisse se faire rapidement. Maintenant, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui de vous dire les choses. C'est Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, qui a en charge cette équipe. Et effectivement, il faut que notamment la Roumanie puisse nommer un candidat.
Amélie de Montchalin, parlons du Brexit, qui donc n'a toujours pas eu lieu. Est-ce que la France et l'Europe sont seulement spectatrices des soubresauts de la politique intérieure britannique? Ou en coulisses, vous avez un rôle, la France a un rôle, les Européens ont un rôle auprès des Britanniques pour le déclenchement des élections législatives qui sont donc prévues le 12 décembre?
Ce qui est clair, c'est que depuis le mois d'avril, vous savez, le président le dit d'ailleurs comme ça, on nous a présenté comme les durs de la bande. On nous a dit, les Français, c'est ceux qui toujours sont fermes, sont durs. Bon, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Depuis le mois d'avril, très clairement, le président de la République essaye de faire en sorte qu'on soit dans la clarté. Parce que derrière le Brexit, il y a surtout beaucoup d'incertitudes. Il y a des millions de familles, des millions d'entreprises qui aujourd'hui n'y voient plus clair. Et tout ce qu'on essaie de faire depuis le mois d'avril, c'est d'avoir au fond des choses simples. D'avoir un accord sur la table, de pouvoir demander aux Britanniques de dire oui ou non, et ensuite d'avoir des échéances en temps qui soient claires.
C'est pour vous ça êtes qu'on... satisfaite du coup c'est qu'il y ait des élections le 12 décembre?
C'est pour ça qu'on s'était battu pour le 31 octobre. Et on a toujours dit qu'on ne repousserait cette date qu'à deux conditions. Soit parce que les Britanniques avaient besoin d'un peu plus de temps pour dire oui ou non à l'accord, soit parce qu'ils organisaient des élections. Pourquoi ça nous paraissait important d'avoir des justifications? Parce que vous aviez beaucoup d'Européens, qui sont pas forcément des gens qui viennent par la radio, mais qui trouvaient ça très très bien de leur donner au fond du temps, 6 mois de plus, 9 mois de plus, et que ça allait résoudre les choses. La conviction française sur ce sujet, c'est que pour résoudre des choses, il faut avoir des échéances rapprochées. Le temps lui-même ne résoudra pas la question. Aujourd'hui se pose pour les Britanniques le moment d'une décision. Est-ce que oui ou non, ils veulent sortir de l'Union européenne, comme le référendum l'a dit en 2016? Est-ce qu'ils veulent oui ou non de l'accord qui a été négocié maintenant pour une deuxième fois? Et est-ce que, oui ou non, puisqu'ils n'arrivent pas à y parvenir, ils sont prêts à organiser des élections?
Justement, parlons de ce qui va se passer maintenant, parlons du futur, parlons de ce qui arrive. Est-ce que si le Parlement ne ratifie pas l'accord, est-ce que si Boris Johnson n'a pas de majorité, il faut, quoi qu'il arrive, qu'il sorte cette fois à la fin du mois de janvier, quitte à ce qu'il y ait un no deal? Parce que vous avez parlé d'incertitudes, et ces incertitudes, elles perdurent depuis maintenant longtemps.
Alors, je peux vous dire qu'on a mis des conditions très fortes. Le 31 janvier n'est pas négociable, l'accord sur la table n'est pas renégociable, et donc, effectivement, à un moment donné, des responsabilités devront être prises. C'est pour ça d'ailleurs que je conseille aux entreprises de continuer à se préparer. Le risque de no deal n'est pas écarté. Maintenant, la clarification démocratique, les élections qui sont en train de se préparer au Royaume-Uni, vont permettre une chose qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'entre le peuple britannique, la composition du Parlement et donc le gouvernement, il y aura à nouveau un alignement. Pourquoi on est dans une impasse depuis maintenant 2 ans et demi ?
Parce que les planètes sont désalignées entre les différents acteurs.
Parce que le peuple britannique a dit « on veut sortir de l'Union européenne », parce que Boris Johnson a été négocié un accord et parce que le Parlement nous dit « on n'en veut pas ». Et donc on est dans un triangle impossible où ces trois forces-là ne travaillent pas ensemble. Donc les élections, ça va nous permettre de réaligner les choses. Soit ils ratifient l'accord avant le 31 janvier, et bien c'est une sortie ordonnée. C'est ce pourquoi nous travaillons depuis maintenant des années.
Mais il n'empêche que pour les entreprises, c'est à nouveau un nouveau délai, alors que vous disiez justement, il faut que ce soit le 31 octobre parce qu'il faut qu'elles se préparent.
Oui, mais ce n'est pas un délai comme certains voulaient, à savoir un délai sans condition. Il y avait des gens autour de la table qui étaient prêts à nous faire repartir pour 6 mois.
Mais il n'y a rien de plus démobilisateur pour une entreprise que de savoir que ben, peut-être ça n'aura jamais lieu.
La préparation qu'on demande aux entreprises, ce n'est pas très compliqué au fond. C'est de demander un numéro, une affiliation pour pouvoir passer la fameuse frontière intelligente au cas où il y aurait des contrôles nouveaux. Une fois que vous avez fait la démarche.
Sait que toutes les entreprises ne l'ont pas fait. La semaine dernière sur Europe 1, on évoquait le cas des 30 000 PME qui exportent vers le Royaume-Uni et seulement 10 000 avaient fait leur diagnostic sur le site de Bercy pour justement se former aux nouvelles modalités douanières.
C'est là où il faut qu'on prenne les 3 mois qu'on a devant nous pour que ces entreprises-là...
Finalement, c'est une bonne chose pour la France aussi, ce nouveau report.
Se préparer, c'est toujours une bonne chose. Et toutes les entreprises se préparent contre plein de risques, contre des risques d'inondation, contre des risques sociaux, contre des risques politiques. Là, il y a un risque sur lequel il faut qu'elles se préparent. On va continuer de les accompagner, sans être dans l'invective. Mais une entreprise, une fois qu'elle a fait les démarches, une fois, elle est prête à faire cette nouvelle procédure douanière s'il y a besoin. Brexit.gouv.fr, c'est un site qui non seulement donne de l'information, mais surtout qui accompagne. On a mis en place toute une infrastructure administrative pour que, entreprise par entreprise, elles puissent poser des questions très spécifiques sur leur secteur d'activité, etc. Donc, je ne peux qu'encourager les entreprises à continuer, mais c'est un risque. Il est possible, et je pense que ce serait une bonne nouvelle pour tout le monde, que si nous avons un deal, eh bien, on a une paire de transitions qui rendent tout ça de manière finalement plus facile pour tout le monde, y compris les entreprises, et peut-être que ça sera inutile. Mais quand on est un chef d'entreprise responsable, la gestion des risques, c'est aussi le cœur de son activité. Et donc, ça tombe bien, on a un peu plus de temps. Mais ce qui était essentiel pour nous, c'est que ce temps, il est conditionné, il est justifié.
C'est pas le 31 janvier pour du temps. Jamais. 31 janvier ou jamais, no deal ou deal, on verra. Maintenant, c'est la balle est dans le camp des Britanniques. On marque une petite pause et on se retrouve pour parler d'Emmanuel Macron qui arrive en Chine demain.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, est avec nous. Amélie de Montchalin, le chef de l'État arrive demain en Chine. Il ira à la foire des importations de Shanghai. Alors, est-ce qu'il y a une vraie ouverture du marché chinois aux importations ou c'est surtout de l'affichage ?
Alors, ce qui est important, c'est que le président n'y va pas seul. Il y va avec des chefs d'entreprise français, comme c'est souvent la tradition, mais il y va surtout avec des Européens, avec des Allemands. Et au fond, il montre que ce n'est pas la France toute seule face à la Chine, c'est bien parce qu'on est des Européens, parce que nous représentons un continent de 500 millions de citoyens, que nous pouvons aller parler avec la Chine plus d'égal à égal. Vous imaginez bien que nous, tout seuls, on voit bien là l'importance et l'intérêt de l'Europe. Et donc, il y va avec le commissaire européen à l'agriculture, qui sera le prochain commissaire normalement au commerce. Il y va avec la ministre allemande de la recherche et de l'innovation. Et il y va avec des entreprises françaises, allemandes, européennes.
C'est nécessaire de ne pas se présenter seul face à la puissance chinoise.
Je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent bien que si on veut ouvrir les marchés chinois, si on veut de la réciprocité, c'est bien parce que nous sommes des Européens que nous pouvons avoir ce dialogue-là. Ça montre aussi que, alors que certains prennent plutôt l'idée d'avoir une guerre commerciale, d'être dans l'affrontement, nous avons nos principes, nous avons notre force, et nous parlons ensemble. Et je pense que c'est comme quand Xi Jinping était venu à l'Élysée, que Angela Merkel, Jean-Claude Juncker étaient venus montrer que ce n'était pas seulement la France qui recevait le président chinois, mais bien l'Europe, et bien ce sont des moments qui nous permettent collectivement de bien prendre conscience de nos forces.
On peut rééquilibrer nos relations commerciales avec la Chine ?
Bien sûr qu'on peut rééquilibrer. Là, le président va par exemple beaucoup parler d'agriculture, d'exportation agroalimentaire française et européenne vers la Chine. C'est essentiel pour tous les agriculteurs qui aujourd'hui
Oui, il y a eu la levée de l'embargo l'an dernier sur la viande bovine, mais visiblement, il n'y a encore que 21 entreprises françaises qui peuvent exporter leur viande en Chine.
Si vous regardez dans la délégation, il y a énormément d'acteurs du monde agroalimentaire pour pouvoir nous assurer des débouchés et créer de la réciprocité.
Si on vous comprend bien, Emmanuel Macron en Chine, finalement, sera un peu le porte-parole de l'Europe. Mais est-ce qu'il est en capacité de porter cette parole européenne? Parce qu'il a quand même subi, sur le plan européen, un certain nombre de revers. Donc, est-ce qu'il a la capacité vraiment de porter cette parole haut et fort de l'Europe?
Alors, vous savez, cette petite musique de la France est isolée en Europe. Je crois que ça fait 40 ans que ça dure.
Mais il a connu des revers, vous ne pouvez pas le nier.
Et l'arrogance française aussi.
Alors, plusieurs choses là-dessus. Je ne crois pas que sur les sujets européens, le président soit très décalé de ce que pensent les Français. Et ça fait 30 ans que les Français veulent que sur la défense européenne, on fasse plus, que sur l'industrie européenne, on fasse plus, que sur le climat, aujourd'hui, nous demandent que l'Europe fasse beaucoup plus. Le sujet, c'est que ce serait très facile pour la France de dire oui à plein de choses et d'être dans un consensus mou. Ça fait d'ailleurs 30 ans que l'Europe déçoit les Européens parce que les Européens pensent que cette Europe ne va pas assez loin. Je peux vous dire, et c'est mon travail quotidien, la France n'est pas seule. Elle a des alliés, sujet par sujet, c'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours la majorité pour le moment, mais on a souvent 8, 10...
C'est bien de le reconnaître que c'est pas toujours la majorité.
Mais vous imaginez si j'étais devant vous et que je vous disais, ben voilà, en fait, sur l'industrie, on va faire pas tout à fait ce qu'on pense, on va faire un peu moins, mais comme ça, on sera d'accord avec tout le monde. C'est normal que, dans le système, et je pense que c'est sain, qu'on puisse avoir une ambition forte. C'est pour ça d'ailleurs que le programme...
Sur l'élargissement, elle est très seule, par exemple, pour dire non à l'Albanie.
Vous me parlez d'élargissement. On pourrait avoir trouvé, vous savez, une situation très simple. On aurait dit d'accord, dans la même journée, on n'est pas d'accord sur le budget, on n'est pas d'accord sur notre souveraineté des affaires étrangères, mais on est d'accord pour l'élargissement. Moi, je pense que le président, il a raison de dire qu'il faut qu'on soit cohérent. Si on veut une Europe plus large, il faut qu'on soit aussi en capacité d'avoir une Europe plus forte. Donc, il y a des réformes qui doivent se poursuivre dans les pays candidats, et les gouvernements le savent, c'est pas un scoop de vous le dire ici. Il y a des réformes qui doivent se faire au niveau de l'Union européenne, mais vous pouvez pas, quand vous avez les 27 chefs d'État et de gouvernement autour d'une table, que certains vous disent « Ah non, non, sur le budget, on met pas beaucoup de moyens, sur les affaires étrangères à la défense, on met pas beaucoup de moyens », et qu'ils vous disent, deux heures après, « Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on s'étende ». Donc là aussi, on a une voie de cohérence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on veut revoir, par exemple, le processus d'élargissement. Mais on a plein d'alliés, et on n'était pas du tout tout seul. Après, ça arrange beaucoup de monde de dire « Ah bah c'est toujours la France ». Sauf qu'on porte quand même un niveau d'ambition qui, je crois, correspond à ce que les citoyens européens nous demandent. Ça fait 30 ans que d'élection en élection, ils sont déçus. Alors, on pourrait se dire, bon, on fait comme d'habitude, on se met dans la masse, on va au plus petit dénominateur commun, comme ça ne fait pas de vague, ou on se dit,
mais pour l'instant, ça ne porte pas forcément ses fruits.
C'est pas vrai. La défense européenne. Bon, ça fait 30 ans que les Français veulent, vous savez, ils disent une armée européenne. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ce qu'on peut faire à court terme, mais ils ont cette idée que sur les sujets de défense, c'est peut-être bien qu'on travaille plus ensemble. Quand le président fait son discours de la Sorbonne, il dit « Je vais lancer une initiative européenne d'intervention ». Tout le monde lui rit au nez. On lui dit « Non mais ça c'est illusoire, c'est complètement farfelu, vous n'y arriverez jamais, ça fait 30 ans qu'on essaye et qu'on ne réussit pas ». Bon, le 14 juillet dernier, il y avait 10 chefs d'État et de gouvernement qui ont regardé leurs armées de 10 pays différents défiler ensemble.
En tout cas,
le but, ce n'est pas de défiler ensemble, c'est de faire des choses ensemble concrètes, d'aller se déployer ensemble dans des zones où on pense que l'Europe a besoin d'avoir une voix.
Donc l'ambition reste la même. Emmanuel Macron ne veut pas faire autrement parce qu'il y a eu ce signal du Parlement européen contre Sylvie Goulard.
Il y a deux choses. Le moment est différent. Il y a eu 2 ans pendant lesquels on n'avait pas de relais au Parlement puisque le groupe Renaissance n'existait pas. Et on était dans une fin de cycle institutionnel européen. Donc pendant 2 ans, le président a posé des jalons, a fixé des objectifs. Ensuite, aujourd'hui, on met en place une nouvelle organisation. Et on a en 2022 la présidence française de l'Union européenne. Donc on a 2 ans et demi devant nous pour, et c'est mon travail quotidien, aller chercher des alliés pour faire des majorités.
Pour préparer et faire avancer les dossiers.
Et donc c'est avec les Allemands, certes, mais c'est avec tous les autres pays. Parce qu'il y a des pays, les pays nordiques sur le climat, sont des vrais alliés. Les pays, l'Espagne et l'Italie, sont des vrais alliés d'une Europe plus sociale. Et je pense que les Français, et d'ailleurs beaucoup de citoyens européens, ont bien envie qu'on fasse beaucoup plus sur l'Europe sociale, contre le dumping, contre la concurrence.
Amélie de Montchalin, parlons des réformes côté français cette fois, la réforme des retraites. Le chef de l'État dit ni faiblesse ni complaisance face à la rue et en même temps, il a quand même ouvert la porte à ce qu'on appelle la clause du grand-père pour les régimes spéciaux. Alors la clause du grand-père, pour nos auditeurs, on va rappeler, c'est le fait que potentiellement la réforme des retraites et le nouveau système pourraient ne s'appliquer qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail, donc ceux qui commenceront à travailler en 2020. La réforme des retraites, si je me souviens bien, était censée être une réforme de justice. Est-ce que si on réforme à 2 vitesses entre régimes spéciaux et autres, c'est pas le comble de l'injustice?
Bon, déjà, pourquoi on s'occupe de ce sujet? Parce que les gens qui ont mon âge, en France, ils sont persuadés qu'ils n'auront pas de retraite.
Jamais de retraite.
Bon, déjà, donc la réforme de justice, c'est d'abord nous assurer que les citoyens qui ont 30 ans, 40 ans, ils puissent se dire qu'ils auront eux aussi une retraite plus tard. Et je pense que c'est urgent de le faire. Vous savez qu'en 45, Pourquoi on a fait cette réforme des retraites et pourquoi on a créé le système des retraites à l'époque ? Parce qu'on sortait de la guerre et qu'on savait que si les gens n'avaient pas de certitude sur ce qui leur arriverait à la fin de la vie, ils ne pourraient pas prendre des risques au début de leur vie. Donc ça, c'est la première chose.
C'est urgent, mais alors pourquoi ouvrir la porte à ce qu'elle s'applique pour certains régimes spéciaux en 2060-2070 ?
Ensuite, il y a un deuxième élément. C'est qu'aujourd'hui, vous avez 42 systèmes différents et que la complexité, ce n'est pas forcément de dessiner ce que doit être le régime final, c'est de trouver les chemins de transition. Comment, d'un régime spécial, vous vous fondez dans le système universel ? Et donc, sur ce sujet-là, il y a la question du rythme, des aménagements. Il y a des professions, on parle des infirmières par exemple, ou des profs, ou des enseignants-chercheurs. Si on les fait transitionner dans le régime en leur gardant leur système salarial aujourd'hui, ce n'est pas juste. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de dialogues, sujet par sujet.
Mais la transition, elle doit durer 50 ans.
Non, ce que dit le président, c'est que, et il l'a très bien dit sur l'acte 2, notre ambition transformatrice, elle est là. D'ailleurs, si on ne transformait pas, les crises qu'on vit aujourd'hui sociales seraient, à mon avis, bien plus grandes dans quelques années. Parce que le système est à bout de souffle. Donc, si on ne se transforme pas, ce qu'on voit aujourd'hui, à mon avis, c'est que le début de l'histoire. Donc, l'ambition transformatrice, elle est là. Elle est là, sur le sujet des retraites, pour que la jeunesse et que les jeunes actifs aient confiance dans le système. Elle est aussi là pour leur permettre de changer de vie. Comment voulez-vous réformer, je ne sais pas, l'action publique, permettre aux entreprises de mener une politique d'innovation, d'industrialisation, si les gens ne peuvent pas changer de métier, ne peuvent pas se former. Donc c'est essentiel économiquement, c'est essentiel socialement et c'est essentiel générationnellement.
Amélie Montchalin, c'est une bonne chose de faire redescendre la pression peut-être avant la manifestation, la grève du 5 décembre, en ouvrant la voie à un assouplissement.
Ce que je vous dis, c'est qu'il y a 42 discussions à avoir. Vous ne pouvez pas avoir 42 discussions si le contexte de début de la discussion, c'est que les gens ont déjà considéré que ce que vous alliez décider était le pire. Et que donc, du coup, c'est même pas la peine de discuter.
C'est le pire, votre réforme ?
Non, mais ce que j'entends, c'est complètement... On est dans le fantasme. Évidemment qu'il va falloir qu'on s'occupe de la transition. Comment, quand on est à la SNCF, on organise les choses pour que les gens... Et le président le décrit très bien. Si vous avez 55 ans ou 50 ans en 2020, c'est pas tout à fait pareil que si vous en avez 30. Donc, le temps, la durée, les conditions de la transition sont essentielles. Et pour ça, il faut qu'on puisse discuter. Donc, ce que dit le président, c'est... Tout est ouvert.
Et pourtant,
nous pouvons en parler.
Et pourtant, tous les syndicats appellent à une journée d'action le 5 décembre, certains même à une grève illimitée. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus pour qu'on ne retrouve pas le scénario 95 d'un blocage du pays avant Noël ?
Donc, il faut qu'on comprenne bien que nous sommes prêts à discuter. Et donc, ce que dit le président, c'est tout est sur la table.
Oui, mais c'est déjà dit et ça n'empêche qu'il y a cette journée.
Ensuite, on sait que les régimes spéciaux, c'est une réforme très compliquée parce que au fond, c'est le corporatisme qui prévaut sur l'intérêt général. Et donc, ce que dit le président, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'aura pas de complaisance. L'objectif de justice et d'universalisation du système, ça, c'est pas négociable. Et s'il faut en passer par un mouvement, il y aura un mouvement. Maintenant, c'est pas un objectif. La grève n'aide personne. Et surtout, il faut qu'on arrive à pouvoir, de manière honnête, créer les conditions de la discussion. C'est ce que fait Jean-Paul Ledevoye, c'est ce que font secteur par secteur tous les ministres. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit peut-être meilleur dans l'explication de pourquoi on a besoin de la réforme. Parce que c'est un peu ambivalent. D'un côté, les Français n'ont plus confiance en ces retraites.
Il faut faire de la pédagogie, etc. Mais
il y a de la pédagogie.
C'est pas de la pédagogie.
C'est pas de la pédagogie.
C'est qu'on puisse expliquer ce que ça crée aujourd'hui comme incohérence économique, comme au fond faiblesse collective d'empêcher des gens, par exemple, de passer d'un secteur à un autre parce qu'ils perdent des droits.
Mais tant que vous ne dites pas aux gens combien ils gagneront dans le nouveau système, eh bien, il y aura cette inquiétude parce qu'on est dans un climat où, de toute façon,
mais
on
ne peut pas dire aux gens combien ils gagneront dans le système tant qu'on n'a pas notamment défini la règle de la transition. Le système pour les gens qui naîtront en 2100, ça je peux leur dire, théoriquement je peux leur dire, sauf que ce n'est pas des gens qui existent. Donc c'est quand même beaucoup moins intéressant. Ce qu'il faut, c'est que ce soit les gens d'aujourd'hui, qu'on puisse accompagner dans cette transition, les gens qui ont 45 ans, leur disent voilà ce qui se passera pour vous, les gens qui ont 50 ans. Donc tout l'enjeu, c'est recréer les conditions d'un dialogue et qu'on montre bien,
Vous parlez de corporatisme, on entend bien que vous avez un discours assez tranché. Est-ce que vous dites aussi, certains sont irresponsables ?
Ce qui est sûr, c'est que quand vous avez des secteurs où les retraites aujourd'hui sont financées, qui vous disent que du coup, ils peuvent rester à l'écart du système, parce que pour eux, tout va bien.
Les avocats.
C'est pas responsable. Parce que la pyramide des âges d'aujourd'hui fait que ça marche bien. Qui leur garantit que dans 20 ans, dans 30 ans, ça marchera bien ? Donc, l'universalisation, c'est pas d'aller pénaliser certains ou d'avantager d'autres. C'est créer un système où, parce qu'on sera tous ensemble, on sera tous solidaires, secteur et secteur, et que ceux qui aujourd'hui voient que le système marche pour eux, mais ne peuvent absolument pas vous dire qui marchera dans 20 ans ou dans 30 ans.
Et le climat social tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'on le voit, la SNCF complètement évanescent, insaisissable, est-ce que ça, c'est comment vous appréhendez ça? On peut avoir un mix de mobilisation syndicale et de gilet jaunisation de l'action.
Moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce qu'au fond, je pense que, et dans les entreprises publiques comme la SNCF, et dans ce qui s'est passé dans le pays, ça montre un énorme besoin de proximité. Pourquoi les gens, aujourd'hui, manifestent ou agissent hors du champ politique, hors du champ syndical? Parce qu'au fond, je pense qu'ils ont l'impression, et ils ont une impression légitime, que les grandes discussions nationales ne connaissent pas leur situation particulière. Vous savez, quand j'étais députée, je me suis beaucoup attachée à ce que, notamment sur l'accès aux services publics, ce qui est devenu après les maisons France Service, puisse émerger. Parce qu'au fond, ce que les Gilets jaunes nous disaient, c'était pas tellement que les lois étaient mauvaises, c'est simplement pour eux, elles n'étaient jamais réelles.
Elles n'arrivaient jamais jusqu'à eux.
Ce que j'entends aujourd'hui, et ce que dit Jean-Baptiste Djebbari, avec le nouveau patron de la SNCF, c'est qu'il veut recréer de la proximité dans la gestion des ressources humaines de la SNCF. Aujourd'hui, tout se fait à Paris. Mais si vous voyez les points aujourd'hui durs, ce sont des points très localisés. Et comment on peut s'occuper de ces points localisés en recréant de la proximité? Je crois que c'est une demande très forte qui concerne et les entreprises et l'État. C'est pour ça qu'on veut redonner sens et corps aux sous-préfets, aux cantons, aux maires. C'est pour ça qu'on a créé cette loi engagement et proximité. Ça, c'est ce que peut faire l'État. Je pense que dans les entreprises, il faut qu'il y ait cette même démarche de décentralisation et de proximité. Parce que sinon, ces conflits, en fait, ils se durcissent parce que les interlocuteurs, au bon niveau, à la bonne échelle, n'existent pas.
Dernière pause, Amélie de Montchalin, on se retrouve dans un instant et on va continuer à parler de l'actualité sociale.
10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Johan Usaï, Aurélie Herbemont.
Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, est toujours avec nous. On va continuer à parler de l'actualité sociale. Cécile Cornudet, c'est à vous.
Oui, avant le 5 décembre, le gouvernement démine sur l'hôpital, par exemple, sur la police. Or, il y a une réforme qui vient d'entrer en application, celle de l'assurance chômage, qui est extrêmement dure. Tous les syndicats, y compris la CFDT, sont vent debout contre elle. Est-ce que vous aviez bien anticipé cet entrechoc d'agenda, juste avant la réforme des retraites? Est-ce que vous n'y êtes pas allé un peu fort sur cette réforme?
Alors, sur cette réforme, il faut avoir, je pense, un élément en tête. On revient sur beaucoup de paramètres sur ce qui était la réalité avant la crise de 2008. Et je ne pense pas qu'avant la crise de 2008, les Français trouvaient que l'assurance chômage était dure ou inefficace. Ce que dit le président, et je pense qu'il faut, à mon avis, collectivement en être conscient, c'est qu'on ne peut pas garder un système qui a été adapté pour une crise quand nous ne sommes plus dans la crise. Le chômage diminue. Il y a énormément d'offres d'emploi sur le marché. On sait qu'aujourd'hui, on a un sujet de formation, de compétences. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait toute une réforme à la fois de l'apprentissage, mais aussi de la formation au long de la vie. Et donc, ce que dit le président, c'est alors qu'on a une conjoncture qui est plutôt bonne, alors que les entreprises veulent embaucher, c'est pas complètement idiot de pouvoir revenir à ce qui était le système avant 2008.
Est-ce que se mettre à dos la CFDT au moment où on a besoin d'elle sur les retraites, est-ce que ça, c'est malin?
Alors, je ne vais pas là, vous voyez, c'est des négociations qui ont lieu avec Muriel Pénicaud, avec le Premier ministre, et Laurent Berger, moi je lui parle de tout ce qui
on
se fait au niveau européen.
On n'arrive pas à le faire revenir dans
le jeu,
en fait,
Laurent
Berger.
Mais lui considère que cette réforme de l'assurance chômage, c'est une des plus dures socialement depuis 25 ans.
Alors, je vous dis, la transition peut être commentée. Maintenant, le régime qui va s'appliquer, je vous dis, c'est le régime qui prévalait avant la crise. Et je ne pense pas qu'à l'époque, les Français aient l'impression que l'assurance chômage ne fonctionnait pas. Il y a, pour les cadres, un aménagement qui est de dire... On a une dégressivité. Ça fait des années et des années, notamment que les experts européens de tous bords disent on a cette fragilité en France et qu'on a une durée d'indemnisation très longue à des niveaux très élevés.
Donc, c'est vos électeurs.
Ce sont nos électeurs, mais ce sont aussi, aujourd'hui, dans une conjoncture qui est celle d'aujourd'hui, le moment de le faire. Cette réforme, il ne faut pas la faire n'importe quand. Mais quand vous avez... Je fais le tour de France, vous savez, c'est d'ailleurs un choix que j'ai fait d'aller parler de ce qu'est la politique européenne partout en France. Les chefs d'entreprise que vous rencontrez partout dans le pays cherchent à recruter. Et ils ne trouvent pas. Ça ne veut pas dire que les gens sont au chômage et ne veulent pas travailler, mais ça veut dire que les freins sont ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on investit dans la formation. C'est pour ça aussi qu'on a créé ce système pour les démissionnaires qui ont un projet de reconversion, qu'ils puissent quitter leur entreprise, avoir droit au chômage et retrouver, au fond, un poste qui leur convienne mieux et qui puisse leur permettre de repartir pour 10 ou 15 ans dans une nouvelle vie. Donc,
il faut avoir un projet particulier, c'est pas ouvert à tous les démissionnaires.
Non,
faut le préciser,
c'est tous les
même.
Démissionnaires qui ont un projet, soit de création d'entreprise, soit de reconversion. Donc c'est de dire, si vous démissionnez avec un projet, eh bien l'assurance chômage est une vraie assurance pour vous permettre de le faire. Ça ouvre des droits pour les indépendants. Tous ces indépendants qu'on sait, qui ont beaucoup, beaucoup pâti du RSI, qu'on est en train de réformer aussi, et qui n'ont pas le droit au chômage, c'est quelque chose qu'on crée aussi. Évidemment, on change des règles. Mais je tiens à dire ici, on revient à ce qui était avant la crise. Et je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on maintienne. Il faut qu'on puisse, dans les moments de faiblesse, adapter les systèmes, mais il faut aussi, quand les choses vont mieux, qu'on puisse revenir, j'allais dire, à l'état initial. C'est sûr que ça crée du changement, c'est sûr qu'il faudra qu'on accompagne mieux, c'est sûr qu'il va falloir qu'on investisse, et on va le faire beaucoup dans la formation, parce que ce qui crée de la précarité, c'est pas l'indemnisation chômage. Ce qui crée de la précarité, c'est de ne pas avoir les compétences qui sont demandées par le marché du travail. Donc c'est là qu'on va investir. Effectivement, c'est une phase de transition. On est conscient du fait que ça va changer les choses. Donc, il y a des gens pour qui ça va changer, positivement et négativement. Maintenant, cet accompagnement-là, il faut qu'on puisse le mettre en place. Et c'est pour ça d'ailleurs que Pôle emploi a des moyens renouvelés, décuplés, pour faire de l'accompagnement, notamment sur la formation.
Yoann Uzaï.
Amélie de Montchalin, un soldat français est mort hier au Mali, le 25e depuis 2013. Il s'agit de Ronan Pointeau, qui a été victime d'un engin explosif, action revendiquée par le groupe État islamique. Preuve supplémentaire que la lutte contre le terrorisme, évidemment, n'est pas terminée. La France doit rester engagée au Sahel.
Je crois qu'elle doit rester engagée au Sahel. La première chose d'abord, c'est qu'il faut qu'on puisse remercier, au fond, tous ces militaires qui, sur le terrain, prennent au risque de leur vie le risque de nous protéger. Et effectivement, la guerre contre le terrorisme, elle se passe dans plein d'endroits dans le monde. Elle se passe notamment pour l'armée française, beaucoup en Afrique. Elle se passe avec les Européens sur place.
Est-ce qu'on est assez soutenu par les Européens, justement, Amélie de Montchalin?
On est soutenu par les Européens. Est-ce qu'on est assez soutenu? C'est pour ça qu'une partie de l'action et de Florence Parly et de Jean-Yves Le Drian, de moi-même, c'est de nous assurer que cette coalition reste une coalition large. Vous savez que pendant le G7, on a aussi pris des initiatives pour renforcer cette coopération sécuritaire avec de nouveaux pays qui vont nous rejoindre.
Mais la France, aujourd'hui, elle est quand même très seule au Sahel dans cette guerre. Est-ce que vous avez encore espoir de les convaincre de nous rejoindre davantage? Ou est-ce que vous vous dites que c'est à la France de porter...
L'Estonie viendra engager un bataillon. L'Estonie, c'est un pays lointain qui, je pense, ne voit pas le terrorisme islamique comme nous l'avons
mais c'est
nous
peu, vécu. Mais c'est très peu, vous le savez.
C'est pour ça qu'on veut créer une défense européenne. C'est pour ça qu'on crée tout notre agenda. Parce qu'on voit bien qu'il y a des menaces qui nous dépassent au niveau national, qui doivent être, justement être abordées par des coalitions d'acteurs. Ce que je vois moi aussi, c'est que cette coalition internationale qu'on va réunir mi-novembre dans quelques semaines, avec tous ceux qui luttent contre Daesh depuis maintenant 5 ans en Syrie et ailleurs, doivent nous permettre de prendre conscience de la menace.
Mais ce que vous dites quand même aujourd'hui, c'est que l'Europe, globalement, n'est pas suffisamment engagée.
C'est que nous cherchons à créer les conditions d'un engagement. C'est pour ça qu'on a créé cette initiative européenne d'intervention. C'est pour ça qu'on s'applique avec des pays très variés, qui sont parfois des petits pays, qui engagent beaucoup de forces dans ces combats, à créer les conditions que cette coalition reste une coalition large. Et c'est pour ça, je vous dis, pendant le G7, on a également élargi les capacités d'engagement que les pays qui n'ont pas forcément des militaires en nombre puissent s'engager autrement à nos côtés. Et ça, c'est extrêmement important. Ce que ça montre surtout, c'est que il ne faut pas être naïf. L'effort militaire, quand on augmente nos budgets militaires, certains viennent nous dire, en France et ailleurs en Europe, que c'est parce qu'on est des va-t-en-guerre, qu'on n'est pas pour le pacifisme. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sont des moyens nécessaires et c'est aussi pour ça que c'est un combat européen.
Amélie de Montchalin, revenons sur le terrain français, terrain politique. Les municipales, c'est dans 4 mois. Est-ce que, quand vous voyez les sondages qui montrent des scores annoncés pour les Verts dans les grandes villes, assez élevés, là, cette semaine, il y avait un sondage pour Lyon où le candidat écologiste est en tête à 22%. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites, on a dit que l'acte 2 était sur les questions d'environnement? Pour l'instant, dans l'opinion, ça ne passe pas du tout.
Alors, c'est pas que ça passe pas du tout. C'est que les Français ont envie qu'on fasse plus et qu'on fasse plus près de chez eux. Et c'est tout l'engagement de
ce qu'on fait. Et ils considèrent que c'est pas forcément vous qui l'incarnez le mieux.
Oui, après, sur les municipales, il faut avoir en tête que 75% des Français aiment leur maire et considèrent qu'ils travaillent bien. Ce serait quand même un peu baroque de considérer que du coup, on va mettre des candidats partout pour faire autrement. Ce que ça montre, en revanche, c'est que les Français attendent plus d'écologie et plus au plus près de chez eux. Et que ce n'est pas forcément par des grandes lois cadres, des grands engagements nationaux, il faut bien sûr avoir des moyens nationaux, européens, mais c'est aussi par des actions de proximité, on y revient, qu'on peut donner corps à la dynamique de recyclage, l'aménagement urbain, la mobilité. Tous ces sujets-là, la politique de logement, la dynamique entre l'emploi, le transport et le logement pour éviter que les gens aient à faire des kilomètres et des kilomètres chaque jour et ensuite à la fois créer de la pollution et avoir des sujets de pouvoir d'achat, de temps personnel, etc. Donc ce que ça nous montre, c'est que oui, il faut qu'on fasse plus d'écologie. Oui, il faut surtout qu'on donne les moyens à ceux qui peuvent le faire en proximité de le faire davantage. Et donc, ça nous rappelle que sur cet enjeu-là, comme beaucoup d'autres, le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de travailler avec ceux qui ont envie de faire. Et je pense que La République En Marche a une volonté au municipal de ne pas être dans un plantage de drapeaux permanent, mais de travailler avec ceux qui portent une ambition.
On a l'impression que vous pouvez travailler avec le PS quand il y a des maires sortants, avec LR et pas avec les Verts. Il n'y a pas de discussion avec eux.
Il y a des discussions dans pas mal de communes. Je peux penser à l'Essonne, par exemple. J'ai 2-3 exemples en tête où on discute avec
les écologistes.
Bien sûr. Parce qu'au niveau local, les citoyens, ils n'ont un peu rien à faire de nos étiquettes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que dans leur commune, les choses fonctionnent, que les plans de transformation, notamment d'espaces urbains, se fassent, que sur le recyclage, on soit meilleur, que dans les écoles, on mange une nourriture de qualité, etc., etc. Donc, c'est pour ça que notre approche, c'est très pragmatique. Comme je vous dis, les Français aiment leur maire à 75%.
Bon, bah, là où il faut c'est organiser pour ça que vous n'aurez pas des candidats partout.
Mais là où il faut organiser l'alternance, on se met en condition de la rendre possible. Et donc parfois c'est nous, parfois c'est d'autres, parfois on fait des coalitions. Et là où les maires travaillent bien, ont un projet, sont prêts à porter l'ambition de transformation du président de la République, on a intérêt à le faire ensemble. Ce serait quand même, je vous dis, à nouveau baroque que d'aller faire du dégagisme partout.
À Toulouse, par exemple, vous soutenez le maire sortant LR, Jean-Luc Moudin, qui est aussi investi par LR.
Mais parce que le but, c'est que notre pays se transforme, c'est que les citoyens voient des changements près de chez eux. Si les maires travaillent bien, s'ils sont prêts à accompagner les ambitions qui sont les nôtres, je ne vois pas pourquoi, et je pense que vous nous feriez une critique légitime, à vouloir nous voir planter des drapeaux, alors que le but, ce n'est pas de planter des drapeaux, c'est de faire en sorte que les citoyens voient des résultats. Quand je vois les sondages sur le niveau de vote encore des extrêmes pressentis s'il y avait des élections présidentielles, ce que ça me dit, c'est que c'est parce qu'on changera la vie quotidienne des Français qu'on pourra lutter contre ceux qui agitent les peurs. C'est pas en ayant, vous voyez, des dynamiques politiciennes, d'étiquettes, parce que c'est pas ça que les Français attendent.
Une dernière question très rapide, Amélie de Montchalin, est-ce que vous serez candidate? Est-ce que vous serez présente sur une liste pour ces municipales?
Non, je ne suis pas candidate aux municipales, j'ai déjà fort à faire avec la politique européenne. J'ai été élue députée en Essonne, c'est un territoire qui m'est cher à la fois familialement, mais aussi parce que c'est un territoire très riche, qui est pas riche au sens économique, mais très riche dans sa diversité, dans la diversité de ses opportunités, de ses défis. Et donc, je resterai très liée à mon territoire, comme je suis, je crois déjà.
Très liée, effectivement, à votre territoire. Merci, Amélie de Montchalin, d'avoir été avec nous. Cécile Cornudet, Yoann Uzaï, merci. Bon dimanche à tous. Et la semaine prochaine, vous retrouvez Mickaël Darmon.
Merci Aurélie Herbemont. En effet, dimanche prochain, ce sera le retour de Mickaël Darmon. Ce grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos est à réécouter sur europe1.fr. Mais n'y allez pas tout de suite, parce que votre matinée continue bien sûr sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Bonjour, c'est Mathieu Noël. Quelle est la meilleure émission d'Europe 1 qui vous propose tous les jours du suspense, de l'intensité et qui vous fait oublier vos soucis du quotidien, hein? Dites-moi.
Bonjour, c'est Christophe Ondelat. L'assassinat de la postière de Rodez.
Mais nous, on a des blagues en plus. Et ça dure 2 heures.
Retrouvez l'équipe sauvage de Mathieu Noël, 7 jours sur 7, de 16h à 18h.
Sur Europe 1.